Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
À quoi servent les médias? Comment peut-on encore lire la presse? Pourquoi faut-il être informé et bien de préférence? Toute cette semaine, les élèves de la maternelle aux classes préparatoires vont se poser cette question, car j'espère que vous ne l'ignorez pas, c'est la semaine de la presse et des médias dans l'école. Depuis plus de 20 ans, chaque année au printemps, cette manifestation est censée permettre à tous ces jeunes gens de comprendre le système des médias, de former leur jugement critique, de développer leur goût pour l'actualité et de forger, je cite le texte du ministère de l'Éducation, leur identité de citoyen. Alors au pied sur terre, on s'est dit qu'on allait leur donner un coup de main à tous ces élèves et les aider à répondre au moins à une question, à quoi sert la radio ? En quoi écouter la radio leur permettra de forger leur identité de citoyen, de développer leur goût pour l'actualité, etc. Pourquoi écouter la radio? C'est même parfois une question de vie ou de mort. On a donc cherché des récits susceptibles de frapper leurs esprits blasés. Prenons la Corée du Nord par exemple. En Corée du Nord, explique un article de Slate qui relaie une information à prendre avec des pincettes, mais quand même plusieurs fois recoupée. Écouter une radio non gouvernementale est un crime contre l'État, passible de la peine de mort. Pourtant, certaines personnes le font quand même, tandis que d'autres gagnent leur vie en fabriquant des postes de radio pirates. Des petites radios fabriquées à la main, si rudimentaires, qui captaient la bonne fréquence est un défi. On s'y prend donc en trifouillant, en tâtonnant, souvent au milieu de la nuit et furtivement, entre 11h et 1h du matin pour ne pas se faire repérer. On y écoute des radios étrangères, mais aussi des radios d'opposants en exil qui permettent parfois de lancer des appels au secours pour fuir le pays, comme ce fut le cas par exemple avec un couple qui a réussi grâce à cette radio pirate d'opposants en exil à s'échapper en 2013. Il faut préciser tout de même que certains Nord-Coréens, quand ils arrivent à capter une radio étrangère, poursuit Slate, sont tellement conditionnés ou endoctrinés qu'ils n'arrivent même pas à croire ce qu'ils entendent, qui est trop différent de ce qu'ils sont habitués à entendre, trop choquant. Aujourd'hui donc, dans Les Pieds sur Terre, la radio, une question de vie ou de mort, des éléments de réflexion et de réponse pour les élèves de tous les collèges, lycées et écoles de France et d'outre-mer. Ce sont deux histoires racontées par Alice Milo.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je suis d'origine sénégalaise et j'ai grandi au Sénégal avec ma grand-mère et mes deux sœurs. Et ma maman était en France. Elle nous a envoyés au Sénégal, mais elle est restée en France. Et ensuite, notre grand-mère nous a envoyés en France pour qu'on soit scolarisés. Elle s'est dit que c'était le temps qu'on apprenne à connaître aussi notre mère. C'était dans les années 74. Moi, j'avais 8 ans. Je ne connaissais pas ma mère, elle ne nous connaissait pas non plus. Le premier rapport, ça a été déjà de nous avertir qu'elle n'allait pas être tendre avec nous, qu'elle ne voulait pas de notre présence, et que donc on avait tout intérêt à se tenir à carreau. Elle n'était pas prête à nous accueillir. Je me souviens qu'un jour, j'ai dit à ma sœur qui m'avait embêtée, je vais le dire à la dame. Et elle l'a entendu, et on a pris une sacrée raclée, parce qu'évidemment, c'était notre maman, mais on ne la connaissait pas. Mes deux sœurs ont pu aller à l'école, mais moi, je suis restée à la maison pour des raisons que je ne connais pas. Certainement des problèmes administratifs, je ne sais pas. Mes deux sœurs, elles, étaient scolarisées. Moi, je suis restée toute seule à la maison avec ma mère, jusqu'à l'âge de 15 ans. Ma mère travaillait quand même de nuit, et elle dormait donc la journée. Donc, je restais dans la chambre, enfermée, même si la porte restait ouverte, je savais bien que je n'avais pas le droit de sortir de la pièce.
Mais vous ne sortiez jamais de l'appartement ?
De l'appartement, non. On restait à la maison et on regardait de temps en temps par la fenêtre les enfants jouer. Je faisais rien. Je faisais absolument rien. Un jour, on a trouvé un poste de radio. Quand on est tombé dessus, on ne savait pas trop quoi en faire. C'est ma sœur qui a touché les boutons. Et elle s'est mise à parler. On a rigolé parce que c'était un accent qu'on ne connaissait pas. On entendait des gens parler de la France. On entendait des gens parler de la Tour Eiffel, qu'on n'avait jamais encore vue. Nous, on était à Créteil. Donc, on se cachait sous le drap et on écoutait la radio, collée à l'oreille. Puisqu'il fallait pas que ma mère sache qu'on avait trouvé cette radio. On savait pas ce qui pouvait arriver. On voulait même pas tenter de voir qu'est-ce qui pouvait arriver. Pour nous, cette radio devait rester cachée. On savait pas si elle pouvait être confisquée. Parce que de toute façon, tout ce qui pouvait nous faire du bien ou autre, elle nous le confisquait. Les jouets de Noël, on avait juste le temps de les voir. Et après, elle les rangeait, on les voyait plus jamais. Donc on avait peur. Donc on se cachait sous le drap. Et on écoutait la radio. Elle avait une odeur particulière, je crois que c'est les piles ou je sais pas. Il y avait vraiment, c'était un petit transistor, c'était collé à l'oreille, mais je sais pas comment expliquer. Même si c'était bas, je pouvais entendre tout parce que j'étais tellement motivée, je sais pas. J'aimais tellement entendre que, et puis c'était un divertissement, c'était des copains, c'était mes les copines que je n'avais pas. Je n'arrivais pas à comprendre que c'était des gens qui étaient enfermés quelque part et qui parlaient dans un micro. Mais alors, j'avais aucune idée de à quoi ressemblait une radio. Pour moi, ils me parlaient à moi. Je ne sais pas pourquoi ils s'adressaient à moi, mais en tout cas, ils voulaient me divertir, ils voulaient parler avec moi. Donc, il fallait à chaque fois que j'allume pour dire j'ai mes copains qui m'attendent. Voilà. Pour moi, quand j'éteignais la radio, ils ne parlaient plus. Il n'y avait plus rien qui se passait. Et c'est quand je l'allumais que par magie, ils se mettaient à parler. Donc, on avait presque envie des fois de leur répondre ou de s'adresser à eux, mais c'était pas possible. Alors, ce qui était très bizarre, c'était les programmes. Ça, par contre, on se disait, mais pourquoi il me dit que à telle heure, il y aura ce programme-là, puisque comment il sait que je serai libre ou pas libre à ce moment-là? Et là, on se disait, ah, il faut y être. Donc, on surveillait l'heure. Et quand on ratait le rendez-vous, on se disait, il va pas parler. Il va pas parler parce qu'on n'est pas là. On l'a pas allumé. Quand je suis arrivée en France, je ne parlais que le Wolof. Je ne parlais pas un mot de français. Et c'est avec la radio que j'ai vraiment entendu les premiers mots français. Je me suis fait ma petite école. Non seulement il y avait des mots que je retenais plus que d'autres. Et quand ma grande sœur rentrait, je lui demandais qu'est-ce que ça veut dire. Et je répétais les phrases. Et elle me dit, mais ça veut dire ça. Alors elle me dit, mais si tu assembles ça veut dire ça. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est la radio qui m'a initiée à la langue française. Mais la musique, alors là, c'était... Ça me parlait dans tous les sens. Claude François en particulier, parce que on savait pas trop s'il était africain. On se disait, mais celui-là, il doit être noir. Parce qu'il y avait de la percue de temps en temps. Donc on savait pas trop. Mais voilà, il y avait ces artistes qui partageaient leur vie avec nous, avec moi. Il y avait aussi côté politique. Et là, c'était un peu plus compliqué. Là, sur ce coup, on savait qui était le président de la République. On savait que sa femme était anémone. Alors là, on l'a bien compris. Giscard d'Estaing, anémone. Et puis, de temps en temps, il parlait de Senghor. Oh! Mais Senghor, finalement, il n'est pas si inconnu que ça. Voilà, et là, ça nous rapprochait du Sénégal. C'était mes seuls amis, il n'y a qu'eux que j'entendais. J'entendais pas les gens de l'extérieur. On n'ouvrait pas la fenêtre non plus. Donc, j'entendais même pas les gens de l'extérieur. Je n'entendais qu'eux. Si j'étais attaché à eux, il fallait tout le temps que j'entende leur voix et je savais reconnaître qui parlait. C'était très mélangé parce qu'il y avait des voix qui ne nous plaisaient pas forcément, mais il y avait un charme derrière qui faisait que moi, je me disais à celui-là, c'est mon amoureux. C'est étrange, mais je tombais amoureuse jour et nuit. Je pensais à lui jour et nuit.
Mais vous étiez amoureuse d'une voix, donc?
J'étais amoureuse d'une voix, mais je lui mettais un visage. Et je regardais à quoi ressemblait un homme blanc à la télé. Et celui qui me plaisait, je disais, il ressemble pas à ça. Et si jamais il était titillé par quelqu'un d'autre, oh, je me fâchais. Je disais, toi, tu vas voir. Tu... Voilà, je le défendais. Je trouvais que tout ce qu'il disait était juste, même si je comprenais pas forcément tout. Quand la radio n'était plus allumée, ben, c'est à lui que je parlais, que je confiais ce qui se passait à la maison. Je me rappelle, ils avaient interviewé un monsieur des États-Unis qui s'appelait McCoy. On en a rigolé parce que McCoy, McCoy veut dire sexe d'homme.
En Wolof.
En Wolof, oui, en Wolof. Donc voilà, il y avait plein de noms qu'on découvrait, les noms français, les noms, les nourritures. On avait presque l'impression de ressentir des parfums. J'ai compris plus tard, des années plus tard, quand j'ai rencontré un aveugle qui me disait ce qu'il voyait, ce qu'il entendait et ce qu'il ressentait. Et pour moi, je l'ai vraiment mis en rapport avec le rapport que j'ai eu avec la radio. C'était vraiment ça. J'ai appris les noms des rues, j'ai appris tout de la radio, ce qui était la France, comment était la France. Je me rappelle pas forcément de tout, le mot université. Voilà, on découvrait plein de choses. Je sais pas comment expliquer, mais elle m'a éduquée. Elle a fait mon éducation sur tous les plans. Si j'avais pas eu ce poste de radio, on n'aurait pas survécu, on n'aurait pas pu, parce que la radio, quelque part, nous a permis de sortir à l'extérieur. Non pas physiquement, mais mentalement. Et ça nous a permis de tenir le coup. Par exemple, après avoir ramassé des coups, ben, on allait écouter la radio pour oublier ce qu'on venait de recevoir. Les coups qu'on recevait, c'était pas des claques, c'est des coups de poing dans le ventre, c'était des coups de pied, c'était très violent. C'était notre évasion, mais moi, à cette époque-là, c'était pas une évasion, c'était ma vie. Le jour où la radio est tombée, on n'avait pas conscience qu'elle pouvait s'arrêter. Et effectivement, elle s'est arrêtée un moment, mais c'était juste les piles qui n'allaient pas. On croyait qu'elle était morte, la radio. Il y a ma sœur qui a demandé à quelqu'un à son école et qui nous a passé une pile. Quand c'est revenu, on s'est... Bon, moi, comme j'avais un rapport à parler avec la radio, donc je disais, excusez-moi, hein. Bon, je disais en Wolof, j'étais pas là, j'ai pas tout entendu. Mais je parlais vraiment avec eux comme si ils étaient là. Mais évidemment, je sentais bien qu'ils me répondaient pas. Sans cette présence, je me serais ennuyée, j'aurais broyé du noir, j'aurais pleuré ma grand-mère à qui déjà j'en voulais, parce que je comprenais pas qu'elle connaissait bien sa fille. Je ne comprenais rien de la France, ce pays où il faisait froid. À quoi elle servait, ce froid? Je comprenais pas. Et d'ailleurs, le fait d'entendre parler du froid à la radio, il parlait de la neige et tout. Oh là! C'est ça. Donc, c'est normal. Il fait froid, c'est que c'est normal. Et du coup, je me suis mis à aimer le froid. Je me suis dit, ben, c'est bien. Parce que comme ils en parlent, ben, c'était quelque chose de bien.
Tout ce qui passait par la radio devenait beau à vos yeux.
Devenait beau, devenait vrai. Tout le reste est... Voilà, j'avais même des problèmes où ma grande sœur, quand elle me racontait des histoires qu'elle voyait à l'extérieur, attends, j'ai pas entendu ça à la radio. Voilà, je l'ai pas entendu à la radio. Et quand j'en entendais parler après, je disais, ah ouais, t'avais raison. Bien sûr que j'avais raison.
France Culture, les pieds sur terre.
On On est parti très tôt de Kaboul. Bon, nous étions en hiver, donc il faisait nuit. On est parti vers 4h30 du matin. Mais bon, la première partie de la route, de toute façon, était totalement sécurisée. Donc là, il n'y avait pas de problème. On pouvait rouler de nuit sans problème. Et nous nous sommes enfoncés dans cette route. Nous avons encore croisé un blindé français, car il y avait une base pas loin. Hein, la région, dans la région, il y avait plusieurs bases. Dans ce blindé, il y avait uniquement un soldat de la Légion étrangère avec un fort accent slave qui m'a dit « À droite, je sais où c'est ma base. À gauche, je suis jamais allé plus loin, donc je peux pas vous dire. » S'il y a des combats, s'il n'y a pas de combats. Moi, ce qui était important de savoir avec Stéphane Taponnier, le journaliste caméraman, c'est de savoir s'il y avait des combats pour ne pas se retrouver entre deux feux, entre le feu des talibans et le feu de l'armée afghane ou entre le feu des talibans et le feu de l'armée française. Et nous avons été interceptés à peu près au milieu de la piste avant Tagab par un petit commando qui a surgi au milieu de la route, qui nous a arrêtés, qui a brandi ses kalachnikovs. Ils étaient quatre, puis d'autres sont venus après très vite. Et là, on savait qu'il y avait un problème. Et d'ailleurs, je me suis retourné vers le traducteur Reza, qui était blême, et qui m'a dit « big, big problème ». Et il n'a même pas eu besoin de dire que c'était les talibans, nous l'avions tout de suite compris. Et ensuite, vers 22h30, 23h, on a commencé un périple en voiture d'abord, puis toute la nuit à pied. Et là, on a compris qu'on était emmené dans les montagnes afghanes, parce que là, nous étions dans la vallée, et que la nasse se refermait sur nous, quoi. En tout et pour tout, on a fait à peu près une quinzaine d'endroits différents, parfois en revenant deux fois au même endroit, mais des mois et des mois plus tard. On était en fait dans une famille afghane, mais isolés au sein même d'une famille, c'est-à-dire dans une pièce close, pourrie, pleine de poussière, de pierres, de souris qui passent de temps en temps. J'ai même eu droit à un serpent. Donc oui, on était parqués comme des bêtes la plupart du temps, dans des pièces, Dieu merci, où il y avait de la lumière, sauf les 5-6 premiers jours. Là, on était dans une pièce noire absolue. C'est ce qui me faisait peur, moi, c'est d'être dans le noir absolu. Et très vite, on a été dans des pièces où il y avait au moins une petite lucarne. Donc jamais, absolument jamais, ni Reza, ni Stéphane Taponnier, ni moi n'avons perdu la conscience du temps. Absolument pas. Dans les premiers jours, je pense vers le 4-5e jour, on a poussé Reza à négocier une petite radio pour lui, ne se doutant pas une seule seconde qu'on pouvait recevoir des programmes français ou anglais. Et c'est vrai que Reza s'était mis à écouter la radio en Dari, en fait, une des langues d'Afghanistan, et nous traduisait en fait les flash infos. Et ce qu'on voulait surtout savoir, c'est est-ce que dans les flash infos, on parle de notre enlèvement? Alors au tout début, oui, ça a duré une journée, puis ensuite, plus rien. Silence radio, c'est le cas de le dire. Et plus tard, bien plus tard, à la fin du troisième mois, ou même au début du quatrième mois, nous savions que nous allions être séparés et on a négocié des radios. On a vraiment demandé, on a eu des doutes, on s'est dit jamais ils vont nous donner de radio. Et finalement, on a eu chacun une petite radio.
Alors comment ça se passe, ce genre de négociation? Qu'est-ce que vous leur demandez? Pourquoi ils acceptent finalement?
Bon, on leur a dit on va être séparés, on va être seuls, absolument seuls, pendant combien de mois, on ne le savait pas. S'ils veulent nous avoir calmes, tranquilles, écoutant ce qu'ils nous demandent, autant être à peu près dans un confort extrêmement relatif. Mais la radio étant quand même, comme je dis toujours, un fil de vie entre notre bulle de non-vie et la vie extérieure. Et ils l'ont compris, un peu à ma grande surprise, mais voilà, ça leur a coûté un investissement de 4 euros par radio, c'était pas énorme. Petite radio chinoise, mais avec ondes courtes, et ça c'est important, donc il y avait bande FM et ondes courtes. Ondes courtes pourquoi? Parce que dans des endroits très isolés, comme les montagnes afghanes, les ondes courtes passent partout, et la BBC diffuse encore, en ondes courtes, justement en tournant la petite molette. Il faut tourner très doucement parce qu'on passe d'une radio à une autre parfois très vite où ça joue sur un millimètre pour capter les ondes, parce que les ondes courtes, justement, ça passe loin, mais c'est capricieux. Donc il faut toujours faire des micro-réglages. Et je suis tombé sur une émission musicale qui passait vers les 20h, et donc une espèce de hit parade mondiale. J'ai découvert la chanteuse anglaise toute jeune, à l'époque Adèle, qui a une voix formidable. Ben ça, c'était un moment de joie intense, parce que je connaissais pas du tout cette chanteuse, et franchement, je me suis pris à danser tout seul, comme un dingue. Elle m'a sauvé, cette radio. Sans radio, je sais pas. Est-ce que je serais devenu fou ou pas? Et surtout, on sort de ce trou à rat morbide. On a la vie à côté, quoi, même à l'oreille.
C'est C'était l'homme le plus recherché de la planète. Sa tête avait été mise à prix à 5 millions de dollars. Osama Ben Laden, le chef du réseau terroriste Al-Qaïda, le cerveau des attentats du 11 septembre, est mort. L'information nous est parvenue cette nuit des États-Unis. L'essentiel du journal sera consacré à sa disparition. Nous irons notamment au Pakistan et aux États-Unis.
Ça, c'est la radio qui nous l'apprend, quasiment simultanément. Moi, j'écoutais la BBC. Reza écoutait une radio afghane. Et tôt le matin, on apprend la mort certaine de Ben Laden. Il n'y avait même pas de conditionnel. Et là, notre gardien taliban monte pour voir si on était toujours là et nous ramener quelques bricoles à manger. Et on lui apprend que Ben Laden est mort. Il dit, mais non, tout ça, c'est évidemment de la propagande américaine, comme d'habitude. Bon, j'y crois pas. Puis il descend et on avait une petite fenêtre et on le voyait en bas. Et toute la journée, il zappait sur toute la radio. J'ai dit, tiens, ça le travaille quand même. Et quand il est remonté, le soir, vers 18h, il était livide, il s'est appuyé sur le mur, mais vidé, vidé. Et Reza lui dit alors, il dit, ouais, bon, vous aviez raison, c'est comme si j'avais perdu mon père.
Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu peur de perdre le peu de choses que vous aviez ?
C'est pas une frayeur, c'est une obsession. L'obsession que la radio ne se coupe pas, qu'on n'ait plus de radio, qu'on n'ait plus de piles, que la radio se casse. Comme les talibans, quand vous leur demandez un truc lundi, vous l'avez généralement le lundi suivant, faut prévoir. Donc, ne pas tomber à court de piles. Première chose. Généralement, ils me donnaient leurs piles de talkie-walkie, parce que les talkie-walkie, ils font la guerre avec des téléphones portables, mais aussi avec des talkie-walkie. Donc, ils ont besoin de piles tout à fait neuves. Et ensuite, ils me donnaient les piles à moitié usées. Mais pour la radio, ça suffisait. Donc, ne jamais tomber en panne de piles. Ça, c'est règle numéro une. Règle numéro deux, faire très attention au petit poste. Ne pas le faire tomber, ne pas verser de l'eau dessus. J'ai renversé de l'eau sur mon poste. Dieu merci, ça se passait vers 22-23h. Et chaque soir, je le mettais dans une poche en plastique et tout est parti sur le plastique, l'eau a glissé et n'a pas du tout atteint l'appareil, parce que je pense que l'appareil était mort. Je me suis fait une frayeur du diable. Voilà, c'est une obsession permanente, parce que sans radio, plus de vie, quoi. Je dirais même que c'était mon seul trésor, avec peut-être la brosse à dents qu'on avait aussi négociée. Avant tout, la radio. J'aurais pu me passer de me laver les dents pendant une semaine ou 15 jours. Certainement pas de radio. Et d'ailleurs, en mesure de rétorsion, un jour, je ne sais plus pourquoi, une bêtise, mon geôlier m'avait confisqué la radio, mais j'en étais vert, blême. J'étais dans un état d'angoisse absolument fou. Et quand il m'a rendu ma radio 48 heures après, pourtant, Dieu sait si je le détestais, mais là, franchement, je l'ai remercié, quoi.
Et vous l'écoutiez en moyenne combien d'heures par jour, alors ?
Entre 5 et 6 heures par jour. Chaque jour, ça c'est sûr.
Et un jour, vous êtes tombé sur une interview d'Ingrid Betancourt.
Ouais, alors là, j'étais seul. Ingrid venait de sortir son livre. Je l'ai entendu sur la BBC, dans un anglais parfait, parler de son livre et de toute sa détention. Ça durait plus d'une demi-heure. C'était donc quand même une interview longue, lourde, chargée, émotionnelle. Et à la fin, alors que moi, j'étais encore au fond du trou, je me disais, oh la pauvre, oh la pauvre. Mais j'étais sincère, quoi. En plus, 6 ans et demi, c'est énorme. Moi, j'étais même pas 1 an à l'époque. Donc d'abord, je me suis dit la pauvre. Ensuite, je me suis dit, bon, pour l'instant, c'est toi le pauvre. Elle est quand même sortie, malgré les 6 ans et demi, ce qui est encore une fois énorme. Et je me suis dit, 6 ans et demi, est-ce que moi, ça va durer aussi longtemps ? Il faut se dire, on va tenir, et ça peut durer très longtemps.
Hervé, maman te souhaite que tu reviennes très vite. Prends bien soin de toi.
Steph, c'est maman. Ton père et moi, on pense tout le temps à toi. Et tes amis nous soutiennent beaucoup. Garde confiance, on t'aime très fort.
Extrait de message personnel de la mère d'Hervé Guéquière et des parents de Stéphane Taponnier. Tous les jeudis à partir d'aujourd'hui, le service en persan de RFI, dont les émissions sont entendues sur place, diffusera à la fin de chacune de ces émissions un message de 3 minutes à leur intention.
Par hasard, un jour, on est tombé dessus, mais c'est vraiment par hasard, parce que ça passait à l'heure de Kaboul, enfin à l'heure afghane, entre 19h25 et 19h30 le jeudi. Donc ça, c'était à la fin. Les 4 derniers mois, on a reçu plusieurs dizaines de messages, sans problème. Ouais, 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 ouais. Ça a fonctionné en gros de février 2011 à juin 2011. Donc c'est bien, en plus c'était la fin, donc on sentait qu'on était soutenus. J'ai eu un message de maman, qui était vivante à l'époque, qui est décédée depuis. Là, c'est un choc. C'est quasiment indescriptible quand on entend sa mère qui vous dit à plus de 80 ans, tiens bon, nous on tient bon, on sait que tu vas ressortir, etc. Il y a une charge émotionnelle qui est bien sûr énorme. Ouais. Mais tout ça fait qu'on savait qu'on était soutenus, pas oubliés. Et comme je dis toujours, c'est le silence qui tue les otages. Et ce qui me préoccupait en tant qu'otage à l'époque, c'était de me dire, mais comment je peux les rassurer pour leur dire, ok, c'est pas facile, mais ça va, je suis pas à l'article de la mort, ça va à peu près, les talibans nous traitent, en tout cas nous, ne nous torturent pas, ne nous frappent pas, nous respectent dans ce sens-là au moins. On voudrait les rassurer, et cette radio-là, elle est à sens unique, ces messages sont à sens unique. On reçoit les messages, mais on peut pas en donner. D'ailleurs, je la regardais, cette radio. Je l'écoutais même pas, je la regardais, parce qu'elle était là, comme ça, je la tenais devant moi, au niveau des yeux. Et oui, je peux dire que je regardais la radio.
Est-ce que vous savez ce qu'est devenu ce petit poste que vous avez trimballé avec vous pendant tous ces mois?
On n'a pas eu le droit de le prendre. Bon, les talibans, quand ils nous ont libérés, nous ont donné des habits blancs, machin, tout ça, traditionnel, à mettre sur nous, d'ailleurs. On a voulu négocier la radio, non, ils les ont gardés. Dommage. Je l'aurais gardé comme un objet fétiche, hein, ça c'est sûr. Je suis pas fétichiste, mais là, pour le coup, je l'aurais gardé. Mais on n'a pas eu le droit de les garder. I let it fall.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Vive la Radio, un reportage d'Alice Milot, réalisé par Perret Legras avec un coup de main de Philippe Baudouin. C'est une émission dont une partie avait déjà été diffusée le 31 août 2015. Merci à Chantal Sania, Hervé Guesquière, Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Céline Autin, c'est notre stagiaire. France Culture continuera toute cette semaine, sachez-le bien, à s'engager pour la semaine de la presse et des médias dans l'école, avec notamment toute cette semaine à 21h dans Par les temps qui courent, l'émission de Marie Richeux, un certain nombre d'invités qui seront tous interrogés, interviewés par des jeunes, des élèves, donc aux côtés de Marie Richeux, des futurs journalistes peut-être. Et samedi matin, il ne faudra pas que vous manquiez non plus La Fabrique médiatique dans le magazine de Caroline Brouet qui posera la question « Les médias savent-ils parler aux jeunes ?» Cette émission sera enregistrée au lycée Jacques Decour dans le 9e arrondissement de Paris.